La mairie vous répond.
La mairie vous répond.
Le nouveau rendez-vous des élus de l'Île-Dieu, chaque premier jeudi tous les deux mois à 18h10 sur Neptune FM.
Sixième numéro de la mairie vous répond a pour thème la zone artisanale de la Marèche sur l'Île-Dieu. On parle de la plateforme de déchets verts, du nouveau centre technique municipal et de l'expansion de cette zone. Tour de table des invités. Bonjour Bruno Nourry.
Bonjour.
Vous êtes maire de l'Île-Dieu. Bonjour Michel Charouin.
Salut Roland.
Vous êtes adjoint au développement économique et bonjour Patrice Bernard.
Bonjour.
Vous êtes adjoint à l'environnement.
Tu sais tout Roland là, vraiment.
À ce jour, la zone artisanale de la Marèche s'étend sur quelle superficie, Patrice?
En superficie, en comptant effectivement la zone de réserve, on est à 16 hectares. Donc aujourd'hui, la zone exploitée est de 8 hectares et la zone qui est aménageable, hein, en partie, est de 5 hectares. Et le reste en réserve foncière.
Qu'est-ce que vous appelez réserve foncière?
C'est-à-dire qu'il s'est aménagé à moyen terme.
C'est-à-dire que dès le départ, quand il y a eu la création de cette zone artisanale, il avait été envisagé de poursuivre les extensions. On sait bien que pour le développement économique, il faut pouvoir offrir des zones d'activité pour les entreprises. Donc ces futures extensions ont toujours été programmées dans les différents documents d'urbanisme pour prévoir l'avenir, parce que c'est important d'anticiper notre développement économique.
À ce jour, il y a combien d'entreprises à la zone artisanale de la Marèche, Michel?
Je n'ai pas le chiffre en tête comme ça. Mais ce que je voudrais dire, si tu veux, c'est...
Oui, Michel.
Ce qui est important, c'est peut-être important de faire comprendre que le rôle d'une commune, enfin d'une collectivité locale, c'est toujours d'anticiper et de permettre que la vie, en fait, puisse se faire sur le territoire. De même qu'il y a eu... par rapport au logement des ZAC, des zones d'activité, des zones d'aménagement concertées pour le logement des gens donc de l'Île-Dieu, donc dans des îlets. De même qu'on est en train de travailler pour l'instant sur des zones agricoles pour permettre le développement de l'agriculture. Ben là, c'est une zone qui a été créée, ça fait maintenant un certain temps, par les élus pour permettre à ce que l'artisanat, à ce que l'activité économique puisse se produire.
Et se développer.
Et se développer. Et puis, ce qui est important de voir, c'est que non seulement la commune a donc acheté des terrains et les a aménagés, mais beaucoup plus que ça, et beaucoup plus que ce qui se fait dans beaucoup de communes de France, beaucoup plus, c'est qu'en même temps, elle aménage aussi des surfaces, des locaux. Là, il y en a 6 qui vont être livrés bientôt. Et qui seront mises à la disposition d'entreprises, hein, qui pourront les louer, voilà. Et je pense que c'est important de voir que c'est le rôle actuellement que la commune de l'Île-Dieu s'est donné, c'est de permettre justement le développement de l'île sur l'avenir. Non.
Il y en a une quarantaine à peu près sur la zone.
C'est ce que j'allais dire, une quarantaine d'entreprises aujourd'hui implantées. On a toujours des demandes pour de nouvelles entreprises. Voilà, donc ce qui nous amène aussi...
C'est plutôt bien aussi pour l'Île-Dieu.
Ah ben bien sûr. Ça prouve un certain dynamisme. Maintenant, aujourd'hui, les entreprises essayent davantage d'être dans la zone artisanale qu'à l'extérieur. Même s'il y en a qui sont à l'extérieur. Mais...
Et pourquoi ce choix d'être dans la zone artisanale?
D'une part, sur le prix du terrain, hein, parce que si on va dans une zone urbaine, on a un prix de terrain qui est beaucoup plus fort, en termes aussi de contraintes d'urbanisme, de construction. Quand on est dans de la zone urbaine, il faut respecter le règlement d'urbanisme, donc qui peut être un peu compliqué quand on veut faire simplement un hangar. Sur la zone artisanale,
c'est possible de mettre un hangar, par exemple.
C'est un règlement qui est
plus souple, on va dire.
Qui est plus approprié.
Voilà,
ça ne veut pas dire qu'il est plus souple. Oui. Il est plus approprié à une zone artisanale. Par le passé, quand elle a commencé à se faire, cette zone artisanale, en fait, les gens achetaient les parcelles. Depuis la première extension qu'on a faite sur la zone sud, on ne vend plus le terrain, on le loue par le biais de bail emphytéotique. C'est pour garder la maîtrise foncière à long terme, parce qu'aujourd'hui, on a une zone artisanale, on peut gérer certes des extensions, qu'est-ce qu'il en sera dans 50 ans si la commune n'a plus de possibilité d'installer ses entreprises, ce sera assez dramatique. Donc par ce système, on garde la maîtrise foncière pour assurer la pérennité de notre développement économique.
Et à ce jour, beaucoup d'entreprises tapent à la porte pour être à la zone artisanale de Nash.
Oui, on ne peut pas suffire. Enfin, la commission de développement économique se réunit très régulièrement pour donner un avis, accord ou pas. Et actuellement, il y a des entreprises, hélas, à qui on doit dire non.
Combien là, d'entreprises,
je à peu près pas,
ben, une là, dizaine, à peu près.
Ah oui, tout de même.
Ah, oui.
Une dizaine en attente, ouais.
On postule et ils sont en attente.
Ah ben, oui. Ouais. Ah oui, tout à fait.
Et là, l'exemple, la semaine dernière, on a reçu effectivement un chef d'entreprise qui souhaitait agrandir son bâtiment sur la zone artisanale. Oui. Bon, il ne peut pas, pour des raisons d'espace. Il souhaitait acquérir une autre parcelle pour pouvoir... Et il a embauché tout de suite 3 personnes.
Oui.
Et malheureusement, parce que le terrain n'est pas encore aménagé au jour d'aujourd'hui, et c'est de l'emploi qu'il ne peut pas créer dans l'immédiat et qu'il ne créera peut-être pas demain parce que le marché est au jour d'aujourd'hui comme ça.
Et ça nous fait mal parce que, par exemple, cette entreprise, on ne va pas donner de nom, mais c'est une entreprise certainement qui va de l'avant, qui innove, etc.
Qui se développe.
Et ouais, qui se développe et qui est en train de créer quelque chose d'un peu nouveau sur l'île et on ne peut pas lui dire oui, quoi. Mais on ne peut pas. Quoi,
dans quelle branche, Michel?
Je ne dirai rien.
Non. Je l'ai tenté.
C'est dans l'artisanat.
Simple réponse. Par contre, la plus grande crainte des riverains, notamment l'association Yeumarèche, qui regroupe 200 adhérents par rapport à la réalisation de la plateforme de compostage des déchets verts et la valorisation des gravats par Trivalis, c'est la nuisance sonore et olfactive. Quelles sont vos réponses par rapport à ces craintes tout de même?
On va peut-être faire un historique. Je vois qu'il y a des questions après. Ça va permettre de répondre aux questions d'après. Il a été mis fin à l'enfouissement de nos déchets au Corbeau, on avait beaucoup bataillé pour que notre centre de transfert des déchets reste au Corbeau.
Et pourquoi elle ne peut pas rester au Corbeau?
J'y viens. Hein, si je fais un historique, c'est bien pour expliquer
les
choses qu'on est déjà venu expliquer à cette antenne,
Dit. Oui. Mais c'est bien de faire un rappel.
Oui, bien sûr. Donc ces questions-là ont été traitées d'abord en commission départementale des sites, puis en commission nationale des sites. On s'était fait un peu blackbouler. Moi, j'avais pas tellement aimé la méthode employée notamment par la présidente de cette commission nationale. On avait fait un recours au tribunal administratif qui a fini au Conseil d'État. Donc le Conseil d'État, une fois que c'est acté, ça fait foi, on ne pourra pas faire avoir une utilisation industrielle du site des Corbeaux. C'est acté, c'est plié, c'est une décision du Conseil d'État. Donc voilà, j'entends par ailleurs des gens qui disent « Oh, vous n'êtes pas assez battus sur les Corbeaux. » Une fois qu'on a cette décision de justice en Conseil d'État, l'affaire est pliée.
On ne peut plus rien faire.
Voilà.
Il faut quand même rappeler qu'on s'est battu tellement qu'en commission départementale des sites, c'était 50-50, ce qui est rare.
Oui. Bon, on avait pas mal argué. C'est remonté au niveau national. Bon, commission nationale des sites, les gens là-dedans ont l'habitude de traiter les cas des ce qu'on appelle des grands sites, la Pointe du Raz, j'en passe, c'est des meilleurs. Nos déchets sur une île, il y a eu un petit choc de culture, je vous le cache pas, mais. Maintenant, cette commission nationale des sites émettait un avis, c'était au ministre de le trancher, ce qu'il a fait à l'époque en disant ben non, vous faites plus rien là-bas.
C'était en quelle époque?
C'était 2009, 2010.
Oui, c'est tout de même assez récent.
Oui, c'est plutôt 2009. Oui.
Et suite à ça, nous on avait fait un recours donc qui a été jugé en Conseil d'État. Alors notre centre de transfert, on a dû se rapatrier sur une zone compatible avec ce type d'activité. Il n'y avait que la zone de la Marèche à l'époque, hein, soyons clairs. Pour autant, on a toujours cette gestion des chais verts et gravats au corbeau. Aujourd'hui, c'est pas officiellement une déchetterie, parce qu'on n'aurait pas le droit. C'est pour la réhabilitation du site, parce qu'il faut combler les casiers, revégétaliser. Donc, bon, on arrive un peu au bout de ce système, en tout état de cause. Bon, le préfet s'est rappelé à notre bon souvenir en disant, attendez, 31 décembre 2015, vous pliez les gaules, vous allez ailleurs. Mm-hmm. Pour respecter cette décision de justice, quoi. Voilà. Bon, derrière ça, nous, on avait un peu anticipé, parce qu'on savait qu'on ne pourrait pas y rester à vitam aeternam. Donc, on avait commencé à étudier d'autres sites potentiels sur l'île. Alors, ce qui n'est pas si évident à faire, parce que bon, faut quand même que ce soit desservi par une voie digne de ce nom. Hein. On ne met pas ça au milieu de la pampa avec un certain flux de véhicules ou de camions. On avait besoin que cette zone ne soit pas dans le site classé, parce que sinon on sera retombé sur le système des corbeaux et donc on aurait pas eu le droit, etc. Donc quand on avait mis un ensemble de critères comme ça, on avait quelques sites potentiels qui feront mal, parce que de toute façon, ça reste quand même dans la nature.
C'était quel site, pour rappel ?
Celui qu'on avait retenu au PLU, parce qu'on avait retenu un, c'était à l'entrée du village de la Croix, au Vieil, dans le double virage, là, avant, sur la droite.
Parce que des chevaux, là.
On n'était pas propriétaire du site, mais bon, ça, on aurait pu négocier. Néanmoins, comme on était entre le bourg et la Croix, on était sur une zone dite de rupture d'urbanisation. Et là, la loi littorale, elle est très claire. On respecte les ruptures d'urbanisation. Donc là-dessus, l'État ne nous a pas donné raison non plus sur cette question-là. Bon, en même temps, si on avait été sur une zone un peu plus ouverte, comme celle que je viens de préciser, on aurait eu besoin d'un peu moins d'équipements. Donc on n'était pas sur une logistique lourde de bâtiments, etc., etc. Maintenant le contrôle de légalité nous a dit non, là vous
c'est
êtes
pas possible.
En rupture d'urbanisation, vous laissez ça dans votre PLU et puis nous on vous l'attaque, quoi.
Et on a été retoqué.
On aurait été retoqué de toute façon. Oui.
Dès qu'on l'a présenté, effectivement, on nous a demandé.
Mais c'est sûr que sur les lieux, si on veut être un peu loin des habitations, proche d'une grande route, pas dans le site classé et en dehors des zones, des ruptures d'urbanisation.
Et rester la zone artisanale de la Marèche.
Voilà.
On pourrait se poser la question aussi, pourquoi pas la carrière de la Meule ?
Elle est en site classé.
Au moins, ça s'est classé.
Ouais.
Sans mauvais jeu de mots, bien sûr.
Si on a pu mettre les gravats de la Marèche dans ce site-là, c'est un dossier qui a duré plus de 10 ans. Hein.
Vous êtes déjà venu en parler, oui.
Oui, mais pour cette réhabilitation, on est passé par différentes voies, etc. À l'arrivée, on a eu le droit de faire une réhabilitation qui nous permet effectivement de mettre nos gravats, pour autant qu'ils soient, que ce soit réellement des gravats.
Soit trié avant, quoi.
C'est ça, ouais.
De manière qu'on soit sûr qu'on ne met pas dedans des choses qui seraient dangereuses pour la nature.
Donc, par exemple, du bitume.
Par exemple.
Mais en tout état de cause, ça peut être qu'un dépôt pour une réhabilitation du site, en aucun cas une exploitation sur place, quoi. Ça, c'est clair.
Et effectivement, il y aura d'autres phases concernant la carrière.
Oui, Patrice. Mmh.
Donc, d'autres phases qu'on ira acheminer des gravats. Ceci dit, ça sera juste dans le cadre de la réhabilitation.
Alors, pour revenir à la question initiale, les nuisances sonores et olfactives, quelles sont vos réponses ?
Peut-être parler du projet avant de parler des nuisances. Le projet, donc, c'est une plateforme de déchets verts et puis une plateforme de gestion des gravats. Alors, les déchets verts, on en a une certaine quantité.
3000 tonnes.
3000 tonnes par an, c'est ça ?
3000 tonnes par an.
3000 tonnes par an.
C'est énorme par rapport au continent ?
Ramener à l'habitant, oui.
C'est le double.
C'est le double. C'est assez énorme. Toujours est-il, c'est que aussi bien les gravats que les déchets verts, on ne peut pas concevoir à un moment donné que ce type de déchets soit réacheminé sur le continent. Hein, ça, il faut oublier.
Ça coûterait trop cher.
750 000 euros rien que pour les déchets verts.
Merci
année.
Patrice pour les chiffres.
Oui.
Mais c'est.
Enfin, ça, ce serait sur l'évacuation pure, il y aurait le retraitement, il y aurait. Bref, on doublerait notre facture poubelle, quoi. Enfin, c'est quelque chose d'inenvisageable, bien sûr. Donc, ceci dit, quoi faire de nos déchets verts? Parce que. Bon, on les prend et si on veut une réutilisation sur place, il faut pouvoir le faire. Donc cette plateforme de déchets verts elle a cette vocation de faire du compost.
Compostage, hein, oui.
Du compostage avec nos déchets verts. Et la plateforme de gravats, bah, on va arrêter de faire ce qu'on faisait dans le passé, à savoir faire des montagnes dans un coin. Et on va retraiter ces gravats un peu au fil de l'eau, parce que, vous savez, au Corbeau, on avait fini par réussir à concasser en partie. Il y a certains types de matériaux qui sont réutilisables par les maçons pour faire du terrassement, par nos services pour faire du remblaiement de tranchées de réseaux. Il y a la fine, c'est-à-dire la terre qui est parmi ces gravats qui est trié aussi, qui intéresse les paysagistes. Alors demain, peut-être de la fine mélangée avec du terreau, bon, il y aura différents produits, mais l'idée, c'est bien de valoriser au maximum nos produits, qu'ils soient gravats ou déchets verts sur place, et de pouvoir les réutiliser sur place.
Et peut-être les vendre.
Ah ben c'est le
Alors, but le... aussi ou
oui,
pas,
oui,
pour l'instant,
oui,
à l'heure d'aujourd'hui.
Oui. Maintenant, quel sera le modèle économique de l'ensemble? Ça risque d'être un peu compliqué parce que ça va être des investissements qui sont lourds. Donc, pour autant, c'est Trivalis qui fait cet investissement. Donc, quel syndicat de déchets départemental où sont adhérents l'ensemble des communes de Vendée? Cet investissement, on n'arrivera pas à le rentabiliser complètement. Ils le savent, on le sait. Hein. Pour autant, il faut faire cet équipement-là sur les lieux et tout le monde en a pleinement conscience. Quoi.
L'objectif, c'est effectivement de valoriser tous ces matériaux pour qu'on puisse en garder le minimum. Parce qu'il y aura peut-être un peu de rebut, mais c'est vraiment minime. Quoi.
Il faut vraiment que tout soit recyclé.
Et en majeure partie.
Oui.
En majeure partie, mais on aura du rebut, hein, ça, c'est fatal. Ouais.
Combien de pourcentage de recyclage, si on a déjà des pourcentages?
Non, on n'a pas de pourcentage, mais disons que sur les gravats, je pense qu'on va en réutiliser peut-être 80%, je pense.
Ce sont les chiffres.
Ouais.
Ce sont les chiffres de Trivalis?
Dans les plateformes ou ça.
Bah, ils le savent sur les plateformes, sur le continent.
80-85%, puis voilà.
De gravats et déchets verts?
Bah, la totalité.
Ah, pas tout.
La totalité.
Ah, la totalité.
Oui. Tout. Et alors, pour les déchets verts, je crois qu'il faut voir aussi, si tu permets, donc Roland, le fait d'amener les déchets verts, c'est peut-être pas forcément la meilleure formule. Les déchets verts peuvent être utilisés aussi.
Sur place.
Sur place. Les gens qui ont des jardins, il serait bien qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent faire broyer ou brailler eux-mêmes ou s'acheter à plusieurs une machine à broyer, ce que j'ai fait moi à ce moment-là. Et puis à ce moment-là, on le fait sur place et puis ça sert comme paillage ensuite les jours où il fait chaud ou le mettre dans la terre pour enrichir un peu la terre. Enfin, voilà, il y a toute une utilisation. C'est un peu dommage de considérer que c'est un déchet alors qu'en fait, c'est un élément qui peut être réutilisé sur son propre terrain, tu vois. Je crois que c'est.
Alors, ouais, pour oui, rejoindre bon. À ce que
Merci
dit
Michel.
c'est vrai que ces 3000 tonnes de déchets verts, c'est une quantité qui est importante. Et donc là, on va avoir une campagne de communication cet automne sur effectivement comment gérer ces déchets verts chez soi.
Comment les recycler, simplement?
Ouais, de la pelouse, c'est 90 ou 95% d'eau, quoi. est-ce qu'on amène ça à la collectivité et débrouillez-vous avec. Enfin, il y a un moment donné où quand on a un jardin, ben, faut savoir faire un tas de compost dans un coin, etc. Je pense que c'est un geste civique, un geste qui est important pour la collectivité. Donc, c'est à chacun de nous de changer les habitudes et de se dire comment je peux faire sur place, oui, si je mets ça dans un coin de mon terrain. Voilà, et moins on en aura à traiter, mieux ce sera.
Et moins ça coûtera pour la commune.
Pour l'ensemble des usagers.
Parce que on sait que sur l'exploitation de ce type de site, quel que soit le modèle économique, on sera un peu déficitaire. Donc moins on nous en amène, moins on sera déficitaire. Voilà, c'est un service qui coûtera à la collectivité, donc à tout le monde. Donc je pense que c'est un geste citoyen de faire chez soi et c'est important d'en prendre conscience.
Cette plateforme va coûter combien ?
La plateforme va coûter...
Patrice.
Voilà, donc dans les chiffres que nous avons actuellement, on est un peu plus de 3 millions d'euros. Et on espère effectivement qu'on ne dépasse pas trop ces chiffres. Donc effectivement, il y a eu des modifs qui ont été récemment apportés. Vous avez dit effectivement, il y a une association qui s'est montée d'une inquiétude par rapport à ce positionnement. Par rapport à ce modif, c'est effectivement sur toute la zone, nous allons avoir un traitement des odeurs. On aura effectivement, on aura aussi un volet paysager important dans son pourtour.
On va en parler aussi.
Voilà. Donc, comme j'ai dit aussi, on aura donc un bâtiment qui va accueillir une structure qui va accueillir tous ces déchets verts en décomposition. Hein. Et puis, on aura aussi tout ce qui est criblage et concassage. Donc là, on a vu dernièrement qu'on aurait un concasseur électrique pour éviter les nuisances sonores, hein, et une gestion saine, dans ce qu'on appelle une gestion saine, c'est-à-dire qu'on aurait des périodes qu'on a déjà vues avec notre syndicat, parce qu'effectivement...
Trivalisme,
où il y a des périodes de l'année où effectivement on éviterait tout concassage, ce sont les périodes estivales, vous pouvez le comprendre, les périodes où effectivement c'est là qu'on a le plus de poussière. Et puis quand vous avez parlé de prix, on est à 3 millions d'euros. Il faut dire que sur ces 3 millions d'euros, 15% de ce coût, ces 3 millions d'euros, est supporté par la collectivité. Hein. Et en plus, on a une partie de la voirie qui est à charge de la collectivité qui serait de l'ordre de 50 000 euros pour accès à cette future plateforme.
Alors les nuisances sonores et olfactives, ça va faire du bruit, ça va pas faire du bruit
Mais qu'une association de riverains se monte et exprime ses inquiétudes, c'est dans l'ordre des choses de la démocratie. Donc moi, je trouve ça plutôt salutaire hein, qu'elle puisse voir le jour.
Mais comment répondez-vous à cette association ?
J'y viens. J'y viens. Effectivement, la zone artisanale est bordée d'habitats. Bon, l'île-lieu est ainsi faite. Voilà. Nous, c'est important de traiter les franges de la zone artisanale, de l'extension en général, avec Merlon, paysager, etc. etc. Après, plus précisément sur ce site... Enfin, sur ce projet de plateforme. On a fait une réunion publique cet été pour informer les gens. Donc, effectivement, des craintes sont remontées sur le bruit et les odeurs. Donc, bon, je pense que le syndicat Trivalis a pris la mesure des enjeux. Au départ, le projet était...
1 740 000 euros.
Ouais, un peu moins cher. Et va finir
3 millions.
Beaucoup plus cher. On a plusieurs choses. Au départ, les casiers de fermentation des déchets verts étaient prévus sans traitement d'odeur. Bon, pour être allé voir la plateforme de déchets verts de Givran, je ne crois pas que l'odeur de fermentation des déchets verts soit réellement un problème. Maintenant, ils mettront quand même le traitement d'odeur en place, c'est un plus, très bien, parfait. Après, il y a la question du bruit. Je pense que le bruit sera davantage une nuisance que l'odeur. Le bruit, il y a des normes à ne pas dépasser. Donc, ils vont s'y conformer. Pour autant, il y a la norme et puis il y a la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est qu'il y a de l'habitat qui n'est pas très très loin. Donc c'est
on peut dire qu'il est même très proche.
Pour certaines maisons, oui. Mais bon, à une certaine distance quand même. Permettre de faire moins de bruit, mon Trivalis, on a une réunion prochainement avec l'association et le préfet sur ces questions-là.
Question de bruit,
ouais. Oui.
Bruit, odeur.
Trivalis proposerait un concasseur à moteur électrique pour faire moins de bruit. Bon, des dispositions entre bruit, etc. Qui vont amener quand même un plus sur le projet actuel. Quoi.
Complètement. Mais puis le projet, on va l'agrandir quelque peu du côté nord-est, mais c'est que de l'ordre de 2000 m², on aura une surface à peu près de 13 000 m² concernant ce pôle déchets vert Grava.
Alors après, ça c'est quand même l'amorce de l'extension de la zone artisanale, avec au nord aussi le centre technique municipal. Là aussi j'ai entendu, pourquoi la mairie va en zone artisanale? Parce que la mairie...
J'allais vous poser la question.
Ouais, la mairie, elle a des sites partout. Les services techniques, on en a dans différents coins, etc. On n'est pas efficace dans notre boulot parce qu'on a des stocks un peu partout. Aujourd'hui, le centre technique municipal a brûlé. Ça a échappé à personne quand même. On a été indemnisé par l'assurance à hauteur d'un million d'euros. Reconstruire le bâtiment actuel pour lui rendre efficace. On avait déjà ce projet de partir en zone artisanale puisqu'il était déjà trop petit comme bâtiment, désuet par rapport à l'utilisation qu'on en a. Donc là, c'est l'occasion d'aller dans cette zone artisanale. En sachant que nous, on va aller sur la partie nord de cette extension à l'est, sur la partie peut-être la plus proche de l'habitat. Et nous, on l'avait dit aux riverains nord qu'on mettrait le centre technique municipal ici parce que c'est aussi la garantie. Enfin, centre technique municipal, c'est pas quelque chose de très bruyant. Et de la manière dont on l'agencerait, ça permettra de faire un tampon avec les activités plus bruyantes qui seraient au cœur de la zone artisanale. Donc ça va être une grosse emprise, hein, le centre technique municipal, ça va être une grosse emprise. Et il nous restera encore des zones aussi pour l'extension, pour permettre l'implantation d'entreprises.
Pour revenir à la plateforme de déchets verts, ouais. Le projet sera finalisé quand ?
Au jour d'aujourd'hui, le permis est déposé.
Mm-hmm.
Hein, donc, il est en instruction. Comme je vous ai dit, il fera l'objet d'un modif par rapport à ce que monsieur le maire vient de dire. Et si tout va bien, on peut espérer dans 6 mois. Dans 6 mois, les travaux vont commencer. Dans 6 mois, après, vous savez, on ne maîtrise jamais le temps. Ouais. Je suis désolé, mais l'objectif, c'est 2016. Le préfet nous avait demandé de pouvoir délocaliser au 31 décembre 2015. On ne tiendra pas les délais.
C'est pas possible.
Hein. Si je vais vous dire le premier semestre 2016, je peux mentir. Logiquement, en 2016, on devrait implanter nos déchets verts et gravats à la Marèche.
Et comment ça va se passer entre fin 2015 et 2016? Vous allez avoir des amendes par rapport?
Non. Je m'avance peut-être un peu, mais disons qu'il y avait cette échéance fin 2015. Il est bien évident que si le projet est avancé, mais pas complètement abouti, parce qu'il y a eu des contretemps divers et variés, et notamment en discussion avec l'association, et moi ce qui me paraît tout à fait normal, le préfet prorogera un petit peu le délai. Hein, ça... Par contre, si on n'avait rien fait depuis 2 ans... c'est sûr que le 31 décembre 2015, il n'y aurait plus rien. Mmh. Ça, c'est clair. Quoi. Ouais.
Et concernant la zone S, Roland, que tu viens d'évoquer, On parle plateforme, on parle centre technique, effectivement, mais le pôle S qui est très important, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en attente de parcelles pour pouvoir édifier leur bâtiment. On vient d'acquérir pratiquement l'ensemble des parcelles, il en reste encore quelques-unes à acheter, pour un montant de 750 000 euros. Donc c'est vraiment une volonté de la collectivité pour pouvoir implanter des entreprises. Hein, et c'est pas 750 000 euros, c'est juste l'achat des parcelles. Derrière, il faut viabiliser toutes les parcelles. Et ça se fera, comme on dit, au fil de l'eau. On ne va pas tout combler du jour au lendemain.
Et pourquoi avoir opté plutôt pour un merlon plutôt qu'un mur acoustique ? Parce que ça aussi, c'est des questions de l'association.
Parce que le mur acoustique, il est approprié, par exemple, en bordure de voie express, etc., pour une efficacité proche. C'est-à-dire que ça va protéger du bruit 20 ou 30 mètres, mais ça ne protège pas au-delà. C'est-à-dire que le son est une onde sonore. Quand elle rencontre un obstacle, elle commence à le contourner. Ben, c'est comme la houle. Hein. La houle, quand elle rencontre une jetée, ben, elle a tendance à rentrer dedans après. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, le mur, il arrête le son, mais le son qui passe au-dessus finit par retomber. Donc, mettre un mur entrée bruit en limite de zone artisanale n'apportera pas forcément la meilleure efficacité. Contrairement à un merlon végétalisé, qui aura tendance à absorber le bruit et éviter ce contournement. Un peu comme un brise-lame aujourd'hui, vous savez, on fait plus un mur quand on fait un brise-lame, on met des blocs pour que ça se que
ça
la
rentre
force de l'onde rentre dedans et
se dilue,
voilà, ouais. c'est ça, et
on peut imaginer regardez toute l'enceinte de la zone artisanale. Quand vous passez la route de la Rolandière, si vous auriez un mur anti-son comme il a été, mais imaginez, il y a aussi l'esthétisme, hein. Nous, le volet paysager, c'est quand même un atout pour nous qui est quand même autre que de mettre un mur anti-son et qui n'est pas plus performant.
Et ce merlon, où retrouver toutes les informations, découpage cadastral, nature, largeur à la base, hauteur, composition, etc. etc.
C'est-à-dire que...
Des questions d'auditeurs,
ouais, ouais, des questions d'auditeurs. Vous avez eu un périmètre, est-ce que dans le cadre du plan local d'urbanisme, les uns et les autres ont pu consulter, de par l'enquête publique, ce projet d'extension de la zone artisanale, hein, où il y avait tout un registre pour pouvoir s'exprimer. Effectivement, vous avez tout un pourtour où ce qu'on souhaite conserver le volet paysager, qui va entre 10 et 30 mètres à des endroits bien précis. Et derrière, en fonction de l'aménagement de la zone, on prend nos responsabilités en fonction de le merlon. Ce qui est important, c'est créer un merlon, mais c'est pouvoir aussi passer de chaque côté pour pouvoir entretenir et planter.
Ouais, après, sur la forme du merlon, c'est les formes standards. Vous savez, c'est le principe de l'écoulement du sable. Il y a une pente, donc je ne sais plus, je crois que c'est la base, doit être deux fois supérieure à la hauteur. Je crois que c'est ça la règle. On ne va rien inventer là-dessus.
Et les essences qui sont déjà en pourtour, on ne va pas couper toutes ces essences pour pouvoir les replanter demain. Non, c'est idiot. On se sert déjà des boisements qui sont périphériques. Et derrière, on apporte effectivement, de toute façon, dans le cadre de la plateforme de déchirer le gravat, il y aura des travaux. On va récupérer beaucoup de gravats qui vont nous servir à commencer ce merlon. Je dis bien commencer, parce que le merlon, il ne se fera pas en 2016. On va commencer la zone artisanale S, enfin l'extension, petit à petit. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Il ne faut pas croire que tous les terrains vont être aménagés en 2016. Hein. Quand je vous ai dit 2016, on souhaite effectivement que la plateforme de déchets verts gravats soit opérationnelle. Ça se cantonne qu'à ça. Hein. Je ne m'engage pas sur le centre technique ni sur les parcelles qu'on va mettre à disposition pour les entreprises. Là, on ne mesure pas le temps. Hein.
Dernière question, la zone artisanale comporte des activités de fabrication de produits alimentaires. Les poussières, toujours le même souci des poussières et du bruit, ça ne va pas avoir des conséquences sur ces entreprises ?
Aujourd'hui, il y a déjà des entreprises du BTP qui font de la poussière sur la zone artisanale et qui sont plus proches de ces entreprises alimentaires. Donc, si ça pose pas de problème aujourd'hui, ça devrait pas en poser demain. Néanmoins, ce qui avait été précisé, c'est que le concassage se ferait les jours de pluie pour éviter justement qu'il y ait trop de poussière. Bon, on a la chance, c'est des institutions publiques qui vont gérer ce site. Donc on sera fatalement plus à l'écoute de l'environnement urbain autour qu'une entreprise privée, sans vouloir jeter la pierre à personne, bien sûr.
Le trafic routier, lui aussi, sera augmenté dans cette zone.
Oui, c'est ce qu'on avait, dit en commission supérieure des sites là à Paris. On s'était fait un peu rironner, mais oui, bien sûr. Maintenant, on a toujours opté pour un seul accès à la zone artisanale. On n'en veut pas d'autres. On ne veut pas démultiplier les accès à la zone artisanale, même pour des terrains, des fois, route de la Rolandière. Ah ben tiens, je pourrais sortir par là. Mais non, on ne va pas faire un gruyère de la zone artisanale et démultiplier les nuisances. Donc tout se fera par cet accès, on aura un peu plus de trafic sur la zone artisanale.
Inévitablement.
Bon, on avait anticipé, on avait mis ce petit rond-point à l'entrée, etc. La voirie a été refaite sur la rue de la Tonnelle pour aussi limiter le bruit des véhicules quand ils passent, etc. Voilà quoi.
Donc pas de soucis notables.
On aurait préféré que ce soit ailleurs, comme tout le monde. Mmh. On va pas se le cacher. Maintenant, c'est ici. Bien sûr que ça va densifier un peu plus le trafic sur la zone artisanale, notamment au printemps, quand il y a les coupes de déchets verts. Pour autant, on va pas faire une quatre voies. Enfin, la voie, elle est quand même suffisamment large, etc. Limiter ce trafic, ce sera avant tout de limiter la génération de déchets à la base, notamment de déchets verts, avec ce qu'évoquait Michel tout à l'heure. C'est aussi à chacun de prendre conscience, de gérer ses déchets verts chez lui quand il le peut.
Alors effectivement, on a beaucoup de travail, hein, et dans ce cadre-là, et quand on parle de tonte de pelouse, le mulching doit être... pas être monnaie courante, mais effectivement, on doit améliorer nos habitudes.
Il faudrait faire des ateliers.
Il est prévu beaucoup dans ce domaine. En tout cas, effectivement, on a un plan déchets qui va jusqu'en 2025. L'objectif, c'est de réduire de 50% notre production. Donc, vous voyez, on est à 3000 tonnes. On doit arriver à 1500 tonnes, sachant que la plateforme de déchets verts demain ne peut accueillir que 2000 tonnes. Donc, nous avons du travail dans ce domaine.
C'est ce que vient de dire Patrice. C'est très important. C'est si on ne fait rien par rapport à nos déchets, la facture va continuer d'augmenter. Et donc, on serait dans l'obligation à ce moment-là d'augmenter aussi le montant des taxes. Je crois qu'il faut bien le voir. En même temps, c'est mieux de garder ça chez soi. Mais ça amène aussi une limitation des taxes dans l'avenir. Et donc, ça évite de faire grimper des impôts locaux ou des taxes. Je crois qu'il faut bien savoir.
Ouais, Bruno. Pour abonder dans ce sens, c'est Trivalis qui va exploiter le site. Néanmoins, nous, on a une cotisation Trivalis qui va être assise sur un certain nombre de choses, et notamment la production de déchets verts.
Ah oui.
Donc, ça veut dire qu'on va le payer malgré tout. Même s'il y a une péréquation départementale, on va quand même le payer sur notre facture poubelle.
Ah oui, ça va coûter. Hein.
Ouais. En gros, pour faire simple, les gens qui auront déposé leurs déchets verts à Trivalis, la mairie payera une taxe.
C'est le budget ordures ménagères et qui est alimenté exclusivement par la taxe que vous payez chaque année en cette saison. D'accord. Donc c'est les gens qui vont payer.
On aura beaucoup à parler sur les déchets. On a des gros projets concernant les déchets.
On reviendra pour.
Comme un gros projet qui est la redevance incitative, mais qu'on en parlera prochainement. En tout cas, monsieur le maire ne le dira jamais assez. effectivement, plus on va produire de déchets, plus on va payer. Donc c'est important, à la base, de produire le moins possible de déchets. D'ailleurs, on l'entend parler dans tous les médias au jour d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment, vraiment notre cheval de bataille et qui coûte énormément. Il faut savoir que pour la collectivité, ça coûte 1 800 000 euros. C'est énorme. On a énormément, on est à presque 20% du budget de la commune, donc c'est colossal. Donc dans les années qui viennent, l'objectif, et notre objectif, c'est de réduire les déchets pour pas payer plus cher. J'ai pas dit de payer moins cher, de payer plus cher. Et là-dessus, on a beaucoup de travail et de travail à faire avec les professionnels. On n'a pas la science infuse. On sait qu'on doit s'appuyer de professionnels pour voir qu'on doit gérer, valoriser, pour qu'à l'avenir, on soit tous gagnants-gagnants.
Michel.
Oui, je veux dire, il faut aussi prendre conscience qu'au-delà de l'aspect financier, il y a aussi, on parle beaucoup actuellement de la transition énergétique.
L'écologie.
Oui, l'écologie. Il y a ce qu'on appelle la COP21, c'est-à-dire...
au mois de décembre.
Au mois de décembre, à la réunion de toutes les parties du monde, la 21e réunion. Et le traitement des déchets, ça en fait partie énormément. C'est qu'un déchet qu'on amène dans un endroit donné, ça veut dire du transport. On le travaille, on le modifie, ça veut dire des machines. Ça veut dire qu'on produit, soit on utilise de l'électricité, et donc quelque part, on utilise une ressource pour produire de l'électricité qui va être nécessaire. On va ensuite le véhiculer, si c'est des déchets ménagers, jusqu'au port, l'amener après dans une barge ou dans un bateau, l'amener ensuite traverser la mer, donc encore une fois, la production de CO2, ensuite le mettre sur un autre camion qui va l'amener dans un endroit pour être... Enfin, voilà, tout ça, en fait, on est dans une chaîne qui est une chaîne qui est loin d'être vertueuse. Il faut qu'on diminue cette chaîne-là, et en diminuant ça, en même temps, on diminuera la pollution et on diminuera le CO2 et donc les facteurs de risque climatique. Je pense qu'il faut avoir conscience qu'il y a un changement formidable à avoir par rapport à notre comportement.
Une question de l'association Ilaise pour la sauvegarde des bois. Pourquoi le bois de la rue Cardoussi et de la rue du chemin de Kerbabu a été complètement déboisé?
Parce que comment nous achetons les parcelles et on déboise pour faire l'extension. Donc je vois pas le...
Ce qui nous ont marqué, entre parenthèses, sans autorisation. Est-ce que vous avez une réponse?
C'est nous qui donnons l'autorisation. Enfin, des fois, les gens ont coupé avant de vendre leur terrain. Mm-hmm. Mais depuis quand on réglemente les coupes de bois des gens sur leur terrain? Enfin, je ne vois pas le problème.
En zone naturelle, en zone classée, vous avez ce qu'on appelle l'EBC, l'espèce boisé classée, ou certaines dans trames urbaines, où il y a certaines essences qui font l'objet de l'espace boisé remarquable. Mais dans ce cadre-là, on a volontairement, dans le cadre du plan local urbanisme, mis un peu d'EBR en pourtour dans la périphérie de la zone artisanale.
L'espace boisé remarquable.
Ouais. Oui, mais en aucun cas, dans tout ce qui est aménagé au jour d'aujourd'hui, tout ce qui va l'être demain, fait l'objet de classement. Hein, c'est voilà.
Il n'y a pas d'irrégularité sur la coupe de bois. Je ne comprends pas bien la question. Mais...
Bruno Nourri, maire de l'Île-Dieu, quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir?
Oui, parce que je crois qu'il y a une question qui n'a pas été posée, c'est qu'est-ce qui se passe si ce projet ne voit pas le jour? Enfin,
On en a parlé tout de même.
Oui, on en a parlé.
Mais si vous voulez rajouter des choses,
non,
allez-y, hein,
ça,
je vous en prie.
Je pense que si ce projet ne voit pas le jour ici, effectivement, on sera amené à expédier les déchets verts et les gravats sur le continent, ce qui aura quand même un autre coût. Donc c'est quand même de notre responsabilité politique de faire en sorte que ce traitement puisse être fait sur place, en tenant compte aussi des remarques des riverains pour limiter au maximum les nuisances. Bon, je pense que l'association s'est mise aussi dans cette optique, comment faire pour que voilà, il y ait moins de nuisances possibles, que ce soit acceptable par tous. On est sur une île, on a du développement économique, on a des loisirs, on a affaire de vivre ensemble.
On est sur un périmètre restreint.
Périmètre restreint qui est complexe. À cet endroit-là, bon, c'est bien que ça peut être compliqué un peu pour les riverains, néanmoins, notre démarche va dans le sens de l'intérêt général avant tout. Et même si on est parfaitement conscient des nuisances que ça peut amener, on reste à l'écoute, bien évidemment, de ce comité de riverains, bien sûr.
Et de la population illaise.
Et de la population illaise.
En général.
Bien sûr, en général.
Michel Charbot.
Oui, je voudrais simplement ajouter que lors de la réunion qui s'est tenue cet été au casino, par rapport à ça, les gens qui étaient là, donc, qui ont ensuite constitué cette association, n'ont à aucun moment n'ont mis en cause, en fait, le projet. Disons, le on projet, comprend, oui. C'est nécessaire.
Non, mais la grosse problématique, on l'a dit tout à l'heure, c'était le bruit et les odeurs.
Voilà, c'est ça, mais ouais. Par contre, ils disent, il faut tout faire, et ils ont raison. Et
ils ne sont pas contre le projet.
Voilà,
c'est on est bien d'accord.
Et je crois que ça, c'était une démarche parfaitement responsable. Et c'est pour ça que cette association qui s'est constituée ensuite, moi aussi comme Bruno et comme Patrick, je trouve qu'elle était tout à fait nécessaire, elle est saine, parce qu'on a des partenaires en face de nous qui sont des gens qui sont responsables et qui nous disent, bon bah écoutez, il faut que ça se fasse, c'est sûr, on comprend bien, il ne faut pas qu'on expédie sur le continent, ça a un coût financier et ça a un coût environnemental que j'ai expliqué tout à l'heure, que personne ne veut. Et par contre, il faut tout faire pour atténuer les différentes nuisances et ils ont raison.
Patrice Bernard.
Oui, moi, simplement, tout a été dit, mais ce qui coûte, c'est le déchet qu'on produit, on ne le dira jamais assez, donc l'objectif, c'est d'en produire le moins possible, et tout ce qu'on va produire, nous, on souhaite le valoriser, et tout ce qu'on va valoriser sur notre territoire, c'est du bonus. On le parle, tout ce qu'on valorise, et c'est des matériaux qu'on n'achemine pas du continent à venir sur notre caillou, donc je me suis dit, on a beaucoup de travail, et ce qu'on souhaite faire, on souhaite le faire dans l'intérêt de tous, nos administrés.
Merci Patrice Bernard, on l'appelle, vous êtes adjoint à l'environnement. Merci Michel Charbot, à très bientôt.
Salut Roland, salut tout le monde.
Vous êtes adjoint au développement économique à la mairie de Lille-Dieu. Merci Bruno Nourry, à très bientôt.
Merci, au revoir.
Vous êtes maire de Lille-Dieu, au revoir.
Toujours.
La mairie vous répond, le nouveau rendez-vous des élus de Lille-Dieu. Réagissez, posez vos questions et réécoutez l'émission sur neptunefm.com.